Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « À la recherche du vin perdu » est un livre-jeu œnologique de Fabrizio Bussella qui détourne le format des livres dont vous êtes le héros pour l'appliquer à l'univers du vin. L'ouvrage place le lecteur dans les terres oubliées, un monde fictif où le vin est devenu mauvais parce que les secrets de sa fabrication ont disparu avec un grimoire perdu. Le principe n'est pas de suivre une intrigue linéaire, mais de progresser par choix, énigmes et détours narratifs à la manière d'une aventure interactive inspirée à la fois du jeu de rôle et de l'escape game. Le livre vise à divertir tout en transmettant des connaissances sur l'œnologie, les gestes, les techniques et les repères culturels liés au vin. Il s'adresse aussi bien aux amateurs curieux qu'aux lecteurs friands de dispositifs ludiques, seuls ou en groupe, autour d'une bouteille. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un livre-jeu qui transforme l'œnologie en aventure interactive. Le premier intérêt du livre tient à son statut de livre-jeu, qui change profondément la manière d'aborder un sujet souvent traité de façon pédagogique et classique. Ici, le lecteur n'est pas simple récepteur d'un savoir sur le vin, il devient acteur d'une quête dont la progression dépend de ses décisions. Ce choix formel permet de faire cohabiter apprentissage et participation active. L'œnologie n'est plus présentée comme un domaine réservé aux experts, mais comme un terrain d'exploration accessible par le jeu. Cette approche est importante car elle réduit la distance entre le lecteur et un univers qui peut sembler technique. En invitant à choisir, tester, se tromper parfois et revenir en arrière, le livre rend l'acquisition des connaissances plus concrètes. La logique ludique donne aussi un rythme particulier à la lecture, avec une succession de fragments à relier, ce qui renouvelle l'attention et favorise la mémorisation des notions croisées en chemin. Deuxièmement, une fiction médiévale fantastique au service du savoir, sur le vin. Le livre repose sur un cadre narratif de fantasy médiévale, les terres oubliées, où le vin est devenu mauvais après la perte d'un grimoire contenant les secrets de son élaboration. Cette intrigue n'est pas décorative, elle sert de structure pour organiser les défis, les énigmes et les découvertes œnologiques. En plaçant le vin dans un monde imaginaire en crise, l'auteur transforme des savoirs techniques en enjeux narratifs lisibles. La quête du grimoire fonctionne comme une métaphore de la transmission des connaissances viticoles et de la fragilité des traditions. Le choix du registre médiéval fantastique permet aussi de créer une distance humoristique avec le sujet, tout en conservant une base sérieuse sur le fond. Ce contraste entre le sérieux des connaissances et la fantaisie du cadre donne au livre une identité singulière. Il évite l'effet manuel en proposant un univers cohérent où les informations sur le vin prennent sens dans une aventure plutôt que dans une suite de leçons abstraites. Troisièmement, une pédagogie fragmentée qui oblige à raisonner, noter et revenir sur ses pas, la structure du livre, découpé en épisodes numérotés et parcouru de manière non linéaire, est essentiel à sa logique. Le lecteur n'avance pas dans un ordre fixe, mais saute d'un passage à l'autre selon ses choix, ses réussites ou ses échecs. Ce fonctionnement produit une expérience proche de l'enquête ou du labyrinthe. Il a une vraie portée pédagogique, car il demande de retenir les indices, de comparer les pistes et souvent de prendre des notes pour ne pas perdre le fil. Cette exigence renforce l'implication intellectuelle du lecteur. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de résoudre, organiser et anticiper. Le livre assume ainsi une forme de difficulté qui fait partie de son intérêt. Les retours en arrière, les impasses et les bifurcations rendent visible le coût de l'erreur, tout en encourageant une lecture plus attentive. Dans le contexte de l'œnologie, cette méthode correspond bien à un domaine où l'observation, la mémoire et le raisonnement jouent un rôle important. Quatrièmement, un ton humoristique qui rend la culture du vin moins intimidante. L'ouvrage se distingue aussi par son ton, souvent décrit comme vif, truculent et drôle. Ce choix stylistique est loin d'être secondaire, car il conditionne la manière dont le lecteur reçoit les contenus sur le vin. En recourant à l'humour, au jeu de mots et à une certaine fantaisie verbale, l'auteur désamorce l'image parfois intimidante de l'expertise œnologique. Le savoir devient plus hospitalier, moins solennel, ce qui élargit le public potentiel. L'humour sert également la lisibilité, il aide à faire passer des notions techniques sans alourdir l'ensemble. Cette tonalité crée un équilibre entre le plaisir du récit et la rigueur des informations. Elle permet de conserver une distance critique face aux codes du monde du vin, souvent associés au prestige ou au discours d'autorité. Le livre propose ainsi une entrée plus libre et plus ludique dans la culture viticole, sans renoncer à une certaine précision. C'est un point fort, car la médiation culturelle passe ici autant par le style que par le contenu. En dernier lieu, une lecture sociale, pensée pour le jeu à plusieurs autour d'une bouteille. Même s'il peut se lire seul, le livre est clairement pensé comme une expérience partageable. Les sources le présentent comme un ouvrage à découvrir entre amis, autour d'une bouteille, ce qui modifie sa fonction habituelle. Il ne s'agit pas uniquement de lire pour soi, mais de créer un moment collectif où discussion, réflexion et dégustation se renforcent mutuellement. cette dimension sociale est importante, car elle relie le contenu du livre à l'usage concret du vin dans la convivialité. Le dispositif favorise l'échange de points de vue, la confrontation des choix et la résolution collective d'énigmes. Cela le rapproche de certaines formes de jeux de société, tout en restant un livre dans un paysage éditorial où les ouvrages sur le vin sont souvent soit techniques, soit purement généralistes. Celui-ci propose une troisième voie, l'apprentissage par interaction. Cette combinaison entre culture, jeu et sociabilité explique en grande partie son originalité et son intérêt pour des lecteurs qui cherchent une activité plus vivante qu'une lecture documentaire classique. En conclusion, À la recherche du vin perdu s'adresse d'abord aux amateurs de vin qui veulent apprendre autrement, mais aussi aux lecteurs attirés par les livres-jeux. Les énigmes et les récits à embranchement. Son principal apport est de transformer l'œnologie en expérience interactive, ce qui la rend plus concrète et plus mémorable qu'un ouvrage explicatif traditionnel. Le lecteur y trouve à la fois un divertissement structuré, un entraînement à l'observation et à la décision, et une porte d'entrée vers des connaissances sur l'univers du vin. L'ouvrage peut également intéresser des groupes d'amis ou des cercles de dégustation, car il se prête à une lecture partagée et à une progression collective. Ce qui le distingue nettement de livres similaires, c'est le croisement rare entre culture du vin, mécanique de jeu et imaginaire fantastique. Fabrizio Buscella ne se contente pas de vulgariser, il met en scène l'apprentissage lui-même. Cette originalité formelle, soutenue par un ton vif et une construction non linéaire, fait du livre une proposition à part dans le champ des ouvrages sur le vin. Si vous souhaitez soutenir Fabrizio Buscella, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.